Le 1er mai, fête du travail et ses traditions respectées, défilé du STKE, commémoration des ouvriers de la SLN décédés au travail et chasse aux muguets. Le maire du Mont-d'Or, Nina Julier, condamne une recrudescence d'actes de délinquance sur la commune. Elle affirme qu'elle sera aux côtés des victimes et fera face à ceux qui choisissent la violence. En métropole, Total confirme le plafonnement des prix à la pompe jusqu'à la fin de la crise au Moyen-Orient, un geste du pétrolier après des bénéfices de 5 milliards d'euros au premier trimestre. Un hacker de 15 ans interpellé, il est soupçonné d'avoir piraté des milliers de données personnelles dans les fichiers de l'ANTP, le portail qui gère les demandes de pièces d'identité. Le sport et Strasbourg au pied du mur, les Alsaciens, c'est du football, se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano en demi-finale aller de la Ligue Conférence. Et puis sur le territoire, dernier entraînement pour 9 nageurs de 13 à 18 ans. Ils s'envolent demain pour les Océanias de natation à Fidji. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui est donc présenté à midi aujourd'hui. C'est en effet le 1er mai, jour férié pour la fête du travail. 1er mai dont les traditions syndicales ont été respectées, défilé du STKE, dépôt de gerbes au monument de la SLN, nous allons y revenir. Mais l'autre tradition du 1er mai, c'est aussi le porte-bonheur qui consiste à offrir un brin de muguet à ses proches. Une pratique respectée en Calédonie où les fleuristes étaient pris d'assaut ce matin, Léana Colombo.
Oui, il fallait venir tôt en ce jour férié pour espérer avoir un brin de muguet. Pourtant, contrairement à l'année dernière, tous les fleuristes avaient reçu leur cargaison de fleurs fraîches, mais les Calédoniens s'étaient déjà rués depuis hier dans les magasins spécialisés pour réserver leur muguet. Plaisir d'offrir ou pour soi-même, les Calédoniens étaient au rendez-vous.
C'est pour ma femme, en fait, pour fêter cette fête avec elle. Une tradition, en fait. C'est une façon de lui montrer aussi que je pense à elle, que je tiens à elle.
C'est pour me faire plaisir, déjà. Respecter la tradition.
Deux petites présentations avec des brins de muguet et une rose. C'est pour offrir. Il y en a un pour mon épouse et puis l'autre, c'est pour offrir à ma sœur.
1er mai, chez moi, c'était la grande fête, les chars défilés. Mais c'était il y a 60 ans. Pour moi, le brin de muguet, c'est sacré.
Ce matin encore, il y avait une file d'attente avant d'être servi chez de nombreux fleuristes. La boutique Happy Flower de Ducos avait commandé près de 2000 brins et la quasi-totalité est partie avant même midi. Ce qui réjouit Elisabeth Rivière, la gérante d'Happy Flower.
Les gens sont au rendez-vous et viennent pour faire plaisir à leurs proches, à leurs amis. Et en tous les cas, eh bien, on les remercie parce que on a bien besoin de toutes ces ventes. Aujourd'hui, eh bien, dans notre secteur de la fleuristerie, les mois sont difficiles et ça nous apporte eh bien, un peu de soutien pour les mois à venir.
Même constat du côté des fleuristes à l'orphelinat, la boutique Angarec ne proposait plus qu'à ses clients à 10h des fleurs artificielles. Les 1500 brins de muguet frais ayant été vendus la veille et le jour J en moins de 2 heures. Mireille Lévy, gérante d'Angarec.
On arrive au bout du bout, on avait bien prévu, mais c'était un grand week-end, donc les gens sont venus déjà hier réserver leur muguet, ils sont partis en week-end et ils ont pris leur muguet avec eux. Donc ben voilà, maintenant on arrive à la fin. On est désolé pour le restant de la matinée où on peut pas leur en proposer, mais on est satisfait d'avoir vendu tout notre muguet. Le petit brin de bonheur, on en a besoin, donc c'est une tradition, chacun vient chercher son petit brin pour faire plaisir autour de soi.
Pour trouver ces petites clochettes porte-bonheur, les Calédoniens pouvaient donc se rendre chez des fleuristes, mais aussi auprès de vendeurs sur les bords de route. Il n'était pas rare d'en croiser aux abords de Magenta, le cimetière du 5e kilomètre ou encore devant la DI3T. Sandrine tenait un stand ce matin au PK4.
C'est la première fois cette année que je suis placée là, parce que d'habitude, tous les ans, je suis placée à Tangoué. Et on s'était dit qu'on va essayer ici. Et ça marche bien. Alors là, on a des muguets, la brindille, elle coûte 1000 francs. Après, on a la brindille plus la rose qui coûte 1500 francs. Ça, par contre, ça part plutôt bien avec ceux avec le petit vase à 1800 francs. Et on espère bien qu'il n'y en ait plus à midi.
Et pour l'anecdote, sachez que le muguet est considéré comme porte-bonheur depuis le XVIe siècle. En France, ce n'est qu'en 1907 qu'il deviendra le symbole de la fête du travail.
Le 1er mai est donc la fête du travail et comme chaque année, l'USTKE organise un défilé dans les rues de Nouméa, comme il le fait depuis 40 ans maintenant. Il a rassemblé 400 personnes ce matin. En tête du cortège, Thierry Lebert, le premier vice-président de l'USTKE.
Ça se passe bien comme d'habitude, hein. C'est quand même rodé à ce défilé du 1er mai, donc d'abord le premier message est un devoir de mémoire, hein, envers tous ceux qui sont battus, qui sont tombés même pour défendre la cause des travailleurs. Et ensuite c'est aussi l'occasion d'introduire aussi les futures revendications pour améliorer les conditions de travail des travailleurs.
Alors aujourd'hui, vous êtes satisfait de cette mobilisation?
Oui, oui, comme je vous dis, hein, on est habitué. Après, ouais, c'est peut-être un petit peu moins de monde qu'habitude, hein, mais bon, il faut savoir qu'après les émeutes, il y a beaucoup de salariés qui ont perdu aussi leur emploi, tout s'explique, quoi.
Hein. Des propos recueillis par Kéline Dabouakou, et après ce défilé, le cortège a rejoint le parking de l'USTKE à la Vallée du Tir, où la manifestation se poursuit par des discours. Et puis, comme chaque 1er mai, en marge de cette fête du travail, la SLN, accompagnée par Enercal et plusieurs syndicats, dont la COGETRA et le SGTINC, commémore ses morts. Une cinquantaine de personnes a fait le déplacement sur le site de Dognambo pour se recueillir devant la stèle où sont inscrits les noms des 44 employés qui ont perdu la vie au travail depuis 1961. Un moment de profonde émotion pour les familles des victimes et leurs collègues. Parmi elles, Agatha Toufi-Chilomaki, qui travaille également à la SLN.
Je suis là avant tout pour tous les collègues de la SLN et également des personnes qui sont de ma famille, Hyacinthe, donc c'est mon cousin. C'est en mémoire d'eux, de ne pas les oublier et surtout de se rappeler que c'est important. La sécurité, de travailler en sécurité et de pouvoir entrer sain et sauf à la maison. C'est la première fois que je viens là. C'était le jour, j'ai décidé le jour. Mais en tout cas, même si je ne viens pas, c'est qu'on a toujours cette mémoire. On ne les oublie pas en tout cas, parce que tous les jours, on passe devant. Et on a toujours ce moment.
Un moment de rassemblement, mais aussi un rappel constant de l'importance de la sécurité au travail, souligne Guillaume Curec, c'est le directeur général de la SLN.
On ne peut pas travailler sans respecter les règles importantes de sécurité. C'est comme ça que de toute façon une entreprise fonctionne correctement, performe. C'est la base de tout à la SLN et pas seulement dans toutes les entreprises aujourd'hui dans le monde. Donc on est effectivement extrêmement attentif à toutes les règles de sécurité. On a bien senti dans les échanges aujourd'hui, dans la présence également nombreuse, une vraie volonté de commémoration, de profiter de cette journée pour bien sûr célébrer les personnes disparues, mais également se souvenir de ce 1er mai comme d'une journée importante pour célébrer le travail dans le contexte actuel du pays. C'est important de se souvenir également de la chance qu'on peut avoir quand on a encore un travail et de penser à tous ceux qui sont aujourd'hui en souffrance. C'est également les messages qu'on a pu partager tous ensemble ce matin.
Cette commémoration était la dernière à se tenir à cet emplacement à la SLN côté usine. En accord avec les familles et les syndicats, la stèle sera prochainement déplacée de l'autre côté de l'entrée du site sur une zone accessible toute l'année sans autorisation spécifique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 58% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à la préservation des savoirs traditionnels, comme le prévoit un avant-projet de loi du pays adopté par le gouvernement. Ils sont 42% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Merci pour votre participation. Et rendez-vous lundi après ce long week-end du 1er mai pour une nouvelle question du jour. À midi 9, la première pause de ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment une recrudescence d'actes de délinquance au Mont d'Or.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Les élections provinciales approchent et vous souhaitez voter par procuration ? La ville de Nouméa simplifie cette démarche pour tous les Nouméens.
Venez vous faire accompagner pour remplir votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous avez deux options sans rendez-vous.
Déplacez-vous directement à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 7h30 à 16h ou montez à bord du Proxibus. Il se déplace dans les quartiers du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site de la ville afin de connaître son emplacement exact.
Pour être sûr de pouvoir voter par procuration, n'attendez pas le dernier moment. Plus d'infos sur www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure, adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La mairie du Mont-d'Or condamne une recrudescence d'actes de délinquance sur la commune. Nina Juliet, le maire, a publié un communiqué ce matin pour affirmer, Nicolas Legrand, que la mairie ne laissera rien passer.
Oui, plusieurs faits de caillassage sont à déplorer ces derniers jours. D'abord, mercredi soir, des automobilistes ont été ciblés à hauteur de Makatea. Et hier, en début de soirée, c'est un bus Taneo qui a été victime de jets de pierre au col Barreau. Un mineur a été blessé. Et dans le même temps, un véhicule de police municipale a été caillassé sur la RP1 à hauteur de Saint-Louis. Nina Juliet, maire du Mont-d'Or, affiche sa fermeté face à une recrudescence de la délinquance.
Je tiens à condamner bien évidemment ces actes de violence et de délinquance qui mettent vraiment en danger la vie des gens. Nous n'accepterons aucun de ces actes et à chaque fois qu'il se passera quelque chose, nous porterons plainte et nous poursuivrons en justice parce qu'il est hors de question de laisser ces actes sans réponse. Ces dernières semaines, nous avons les forces de sécurité nous ont dit qu'il y avait de plus en plus de cambriolages, notamment dans la partie sud de la commune. Encore une tentative de carjacking cette nuit sur la zone de Saint-Michel. Donc il y a une recrudescence. On en est conscient, on travaille avec les forces de l'ordre sur ce sujet et ça commence par le recrutement des 5 policiers municipaux que j'ai annoncés et dont les avis de vacances de poste sortiront cette semaine.
Nina Julie affirme aussi que la mairie est pleinement mobilisée après un acte de violence au lycée du Mont d'Or. Au début du mois, un élève a été passé à tabac par 2 autres jeunes et a été sérieusement blessé à la mâchoire. Le conseil de discipline s'est réuni cette semaine et a décidé de leur exclusion avec sursis. Alors pour faire face à cette violence, notamment chez les mineurs, la mairie travaille à la mise en place d'un parcours de tolérance zéro.
Il s'agit d'abord d'identifier l'ensemble des mineurs mis en cause et des familles également, et ensuite de proposer une réponse adaptée. Ça peut débuter par un courrier de rappel à l'ordre du maire, ensuite une convocation en mairie des familles par le maire et par les forces de sécurité. Si c'est plus grave, on réunit ce qu'on appelle le Conseil des droits et des familles pour entendre les parents et les mises en cause. Et on peut proposer tout un tas de sanctions, de la réparation, du remboursement, mais également des travaux dans la commune et aussi des stages de responsabilisation pour les parents, pour leur rappeler leurs obligations. Et puis si, malgré ces sanctions, cela ne fonctionne pas, cette fois-ci, on dépose plainte et le dossier est judiciarisé.
Et dans un communiqué publié ce matin, la mairie du Mont d'Or affirme qu'elle sera aux côtés des victimes et fera face à ceux qui choisissent la violence.
Les faits divers avec ce feu d'origine accidentelle au MV Lounge baie des Citrons. L'incendie serait parti d'un frigidaire au niveau du bar du rooftop au premier étage. Les faits se sont produits vers 6h20 ce matin. Le sinistre a détruit le bar extérieur selon les pompiers, mais le reste de l'étage n'a subi que peu de dégâts au niveau de la terrasse. 19 pompiers sont intervenus avec 5 engins. Moment de dévotion et de ferveur, toujours au pied de Notre-Dame du Pacifique. Les 24 heures de prière ont débuté hier et se sont évidemment poursuivies toute la nuit. Une vingtaine de groupes de prière se relaient pour ce moment de recueillement qui ouvre le mois de Marie et célèbre aussi Saint-Joseph, patron des travailleurs. Une messe de clôture sera célébrée ce soir à 18h au pied de la Vierge Notre-Dame du Pacifique par le père Georges Sao. La 4e édition du Tour de Calédonie à Mobilette de l'association Les Petits Pansements du Cœur. Elle a débuté ce matin. Le départ a été donné à la caserne des pompiers de Dumbéa. La mobilette de l'association Les Petits Pansements du Cœur va aller à la rencontre des Calédoniens pour sa campagne SMS pour permettre de réaliser des rêves pour les enfants malades. Écoutez Patrick Monnier, il est bénévole de l'association et c'est lui qui pilote la mobilette.
Cette opération, c'est d'aller à la rencontre des Calédoniens à travers les mobilettes, tout simplement. Et puis, c'est surtout booster une campagne SMS que l'on a mis en place pour pouvoir faire les rêves des enfants qui ont des maladies chroniques et puis faire vivre l'association à travers cette campagne SMS, en sachant que c'est les Calédoniens qui soutiennent l'association, parce que notre association, depuis 14 ans, fonctionne sans aucune subvention. Alors, ce Tour de Calédonie, c'est vrai que c'est la 4e édition. On modifie à chaque fois les parcours. Donc, c'est Dembéa Bouloupari-Thio, Thio-Bouloupari, Bouraï. Voilà, on fait 197 km. La deuxième étape, c'est Bouraï-Waouilou, Ponérewin. On fait une petite pause à Waouilou, là, chez des amis. Et après, on arrive à Ponérewin. Là aussi, Ponérewin, la commune nous héberge. Puis voilà, enfin, plein de belles petites rencontres partout, tout au long du parcours, quoi. Hein. Et puis après, on se rencontre les gens, on échange. Je sais qu'à Koné, on doit rencontrer les collégiens de Koné. À Kouma, qu'on est déjà attendu. Enfin, un peu partout où on passe, les gens essayent de nous rencontrer et puis passer des petits moments ensemble. C'est sympa, quoi.
Et si vous voulez aider l'association qui travaille à réaliser les rêves des enfants atteints de maladies chroniques hospitalisés en pédiatrie au Medipôle, vous pouvez envoyer don au 36 77 jusqu'au 16 mai. Et puis c'est aujourd'hui, attention, le jour du grand tirage au sort de notre jeu Chance. Vous pouvez envoyer un SMS au 4020 pour tenter de remporter ce magnifique lot qui sera donc tiré au sort à 14h. Quand je dis magnifique lot, de quoi s'agit-il, Pierre ?
Eh bien écoutez, Jean-François Baudin, c'est un très très beau séjour et c'est offert par le Malabou Beach. Le lot, il comprend 5 nuits en bungalow, jardin avec vue maire pour deux personnes. Et en plus de ça, il y a le petit déjeuner et le dîner qui sont inclus. Sur place, les gagnants pourront aussi profiter de la piscine, des kayaks mis à disposition et des activités proposées par l'établissement. Et ça, Jean-François Baudin, c'est un cadeau d'une valeur de 119 000 francs. Et pour rappel, c'est offert par le Malibu Beach.
Et ce cadeau est peut-être pour vous. Il vous suffit d'envoyer chance au 40-20 dès maintenant. Vous pouvez jouer évidemment autant de fois que vous le voulez, ce qui multiplie vos chances d'être tiré au sort. Tirage au sort donc à 14h. Il est 12h15, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, c'est une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province sud.
Et ouais !
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 40-20. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité dans la métropole et dans le monde avec Jean-François Baudin.
Total a décidé de plafonner ses prix à la pompe en métropole pendant toute la durée de la crise au Moyen-Orient. Annonce faite au lendemain des résultats du géant pétrolier français au premier trimestre 2026, plus 5 milliards d'euros de bénéfices, 60 milliards de francs, qui avait suscité une vague de réactions. Le Premier ministre avait appelé Total à redistribuer ses bénéfices d'une manière ou d'une autre. La gauche avait vivement réagi en remettant sur le devant de la scène la taxation des super-profits, une option qui ne semble pas totalement écarté par le gouvernement. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
L'exécutif, sous le feu des critiques depuis le début de la hausse des carburants, renvoie la responsabilité aux distributeurs. Mais hier, Sébastien Lecornu refusait le total bashing tout en considérant que l'entreprise devait, je cite, redistribuer d'une manière ou d'une autre les éventuels profits exceptionnels, tandis que la gauche réclame une taxation pure et simple, comme l'expliquait ce matin le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Nous avons déposé une proposition de loi qui est une proposition qui vise à taxer les super-profits. Pour les entreprises qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires.
Donc les très grosses entreprises.
Très grosses entreprises. En total, ce serait 2 milliards.
Et à nouveau, cet après-midi, le Premier ministre s'exprimait depuis Matignon pour reconnaître un débat légitime.
Le débat sur Total, il est légitime. De toute façon, il est sur la place publique et on peut le comprendre. Tous les sujets de fiscalité, de toute façon, c'est un sujet pour l'année prochaine. Les débats budgétaires sont à l'automne. Vous ne pouvez pas inventer un impôt comme ça par un claquement de doigts au milieu d'année. Heureusement, d'ailleurs, c'est une démocratie.
En clair, le gouvernement tente tant bien que mal de maintenir un équilibre en cultivant cette ambiguïté sur sa position dans les semaines à venir et affirme continuer les échanges avec les différents acteurs. Manière de temporiser, de tenter de gagner du temps, mais aussi de se montrer au travail dans un contexte de colère populaire qui augmente chaque jour et d'une guerre dont la durée est pour l'instant impossible à prévoir.
Total a donc décidé de continuer le plafonnement des prix à la pompe tant que durera la crise et elle va durer au moins encore plusieurs semaines, estime Olivier Gantois. C'est le président de l'UFIP Énergie et Mobilité.
Malheureusement, on est obligé de s'habituer à ces prix très élevés du baril de brut. Ce qui est certain, c'est que Hormuz reste quasiment bloqué et que plus longtemps ce blocage d'Hormuz durera, plus on risque d'aller à un moment vers des problèmes d'approvisionnement.
Le prix des carburants va donc rester haut pendant au moins quelques semaines selon cet expert qui ajoute qu'il manque chaque jour 7 millions de barils de pétrole dans le monde. De leur côté, les USA envisagent une reprise éventuelle des actions militaires pour forcer Téhéran à conclure un accord. Plusieurs scénarios ont été présentés à Donald Trump. La reprise d'une campagne de bombardement intense et ciblée, la prise de contrôle partielle du détroit d'Hormuz qui nécessiterait l'envoi de troupes au sol ou encore une opération des forces spéciales pour récupérer l'uranium iranien. Ce conflit au Moyen-Orient illustre les bouleversements du monde et de nouveaux modes de combat. La France est-elle prête à mener des combats à haute intensité ? Depuis février, l'armée française organise dans ce but un grand exercice baptisé Orion 26 qui s'est refermé la nuit dernière pour nous dans l'aube en présence du président de la République.
Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une armée qui avance, qui se transforme, qui se modernise,
qui agrège et qui est là pour répondre aux défis contemporains qui sont les nôtres.
Emmanuel Macron, lors de la clôture de cet exercice militaire Orient 2026, qui a permis de tester de nouveaux modes de combat, mais aussi l'utilisation notamment de drones, devenus indispensables sur les zones de guerre. L'actualité en métropole, c'est aussi cet accident très spectaculaire qui n'a heureusement pas fait de victimes. À Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, un bus conduit par une employée en formation a fait une sortie de route après avoir heurté une voiture et percuté une rambarde de sécurité. Le bus est tombé à l'eau. Ses quatre occupants ont tous été sauvés grâce à l'intervention des témoins. Le récit de Charles Bouchin.
Vers 9h30, Dorian et Merlin, entraîneurs d'aviron, s'apprêtent à débuter leur séance quand un bruit sourd retentit. Un bus percute une voiture, une rambarde, puis termine dans la Seine. De l'autre côté de la rive, Dorian, qui a tout vu, démarre aussitôt son bateau à moteur.
On a vu des têtes qui sortaient de l'eau et du coup on y allait direct. Moi quand je suis arrivé, il y en a certains qui commençaient à recouler un peu parce qu'ils n'avaient plus d'énergie, plus rien. Je les ai accrochés direct à mon bateau. C'était un peu compliqué de les hisser, donc j'ai attendu que Merlin arrive.
Sous la violence du choc, les vitres du bus auraient explosé, permettant aux quatre occupants de s'extraire. Merlin arrive et les deux moniteurs d'aviron récupèrent trois des quatre personnes dans l'eau.
On les met sur notre bateau, on leur met les couvertures de survie parce qu'elles avaient froid. Et ensuite, on les ramène sur la berge. Donc, il y a des petits escaliers. C'est les policiers qui nous aident à sortir et les pompiers attendent en haut puisqu'ils sont arrivés un petit peu après pour prendre en charge les personnes.
La dernière victime est finalement secourue par une habitante qui vit sur une péniche à 20 mètres de l'accident.
Je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose quand j'ai entendu des hurlements et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu des gens dans l'eau. Comme on a des bouées et des échelles, j'ai réussi à faire sortir une des jeunes filles.
Grâce à ce sauvetage miraculeux qui n'aura duré que 5 minutes, les passagers sont sains et saufs. Quant à la conductrice en formation, elle a été placée en garde à vue. Ses dépistages d'alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs.
Toujours en métropole, le Conseil d'État confirme la dissolution de la Jeune Garde. La décision avait été prise par arrêté en juin 2025 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau. La décision du Conseil d'État intervient alors que le parquet de Paris a été saisi d'un dossier pour reconstitution de ligue dissoute après la mort de Quentin de Ranque, décédé à Lyon après une violente rixe. Le Conseil d'État a donc confirmé la suspension du groupuscule. Ses membres, écrit-il dans sa décision, prenaient l'initiative de la violence dans l'espace public. Sa dissolution est proportionnée, conclut-il. Et puis un jeune hacker interpellé après le vol de milliers de données personnelles dans le fichier de l'ANTP, le portail qui gère les demandes de pièces d'identité. 10 jours d'enquête ont donc abouti à l'arrestation de ce hacker et ce qui surprend, c'est son âge, Jean-Baptiste Marty.
15 ans, un adolescent, ce jeune hacker est connu sous le pseudo de Brèche 3D sur Internet, un génie de l'informatique selon d'autres pirates numériques. Il a donc été interpellé le week-end dernier, samedi dernier. Une information judiciaire avait ensuite été ouverte mercredi par le parquet de Paris. Les magistrats ont requis sa mise en examen pour atteinte à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État. Le parquet a également demandé sa libération, mais sous contrôle judiciaire. C'est via un forum cybercriminel que les enquêteurs ont pu remonter la piste de l'adolescent. Selon le parquet de Paris, le jeune homme proposait à la vente entre 12 et 18 millions de lignes de données. Il a ainsi été confondu par ces données numériques. S'il est reconnu coupable de ce piratage massif, le suspect encourt jusqu'à 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Midi 23, la dernière pause de ce journal que l'on va conclure dans un instant avec toute l'actualité sportive.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Stop aux hôtels classiques et aux petites chambres. À l'Hôtel du Centre, profitez de studios 3 étoiles de 30 mètres carrés avec vraie cuisine, lave-linge, sèche-linge, parking et Wi-Fi gratuit. Hôtel du Centre, tout le confort au meilleur rapport qualité-prix. Réservé au 230 700 ou sur www.hôteldducentre.nc.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le football et les demi-finales aller de la Ligue Conférence ce matin. Strasbourg s'est incliné 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano, Léo Fichou.
Sans inspiration, inoffensif en attaque, mais solide, on peut le dire, défensivement, les Alsaciens ont été malmenés du début à la fin de la rencontre. Malgré la large domination des Espagnols, les Strasbourgeois ont su éviter la déroute. Et comme vous le disiez, ils se sont inclinés seulement 1-0. On écoute le défenseur danois, Lucas Højbjerg.
Oui, c'était difficile, on le savait. On le savait avant de venir ici que ce serait difficile. 1-0, finalement, ce n'est pas si mal. On a perdu 2-0 à Mayence la dernière fois et on a réussi à reprendre le score. Oui, on devait défendre. Ça fait partie du football, parfois. Parfois, le football est comme ça. Ils ont tout fait pour marquer plus de buts. On a réussi à bien défendre et à maintenir le 1-0. Ce n'est pas un mauvais résultat.
Et après ce match aller, rien n'est encore fait. Au contraire, même tout est encore possible pour Strasbourg puisque le match retour se jouera à la Méno. Le public aura donc son rôle à jouer. Dans l'autre rencontre, Crystal Palace s'est imposé 3-1 sur le Shakhtar Donetsk.
En tennis, on suivra les demi-finales ce soir du Masters 1000 de Madrid. Le Français Arthur Fils sera opposé au numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Dans l'autre demi-finale, duel d'Alexander entre le Belge Alexander Blox et l'Allemand Alexander Zverev. Le sport côté calédonien et la moisson de médailles se poursuit aux Océanias d'haltérophilie qui se déroulent au Samoa. Après l'or d'Henri et Athénée et l'argent de Mélissa Ostosi, Zoé Magnetti a décroché le bronze dans la catégorie jeune des moins de 77 kilos. Océania toujours, mais cette fois-ci pour la natation. Dernier jour de préparation pour les nageurs calédoniens avant leur départ demain pour Fidji, Léo.
Oui, ils étaient en séance d'entraînement 2 heures ce matin dans les bassins du Wentoro. Les Océaniens rassembleront les meilleurs nageurs de la région et même les Australiens. Et les Néo-Zélandais qui ne participent pas habituellement aux Jeux du Pacifique. Ça se déroulera du 8 au 13 mai à Suva. La Ligue calédonienne de natation met toutes les chances de son côté pour réaliser de belles performances, décrocher des podiums et des médailles. Et après un stage de préparation pendant les vacances de Pâques, les nageurs sont réunis une dernière fois. Donc aujourd'hui, Cyril Huette est le manager de l'équipe calédonienne de natation.
On est dans la finalisation, bien que demain on a le voyage qui va pas mal pomper un peu d'énergie. Donc dès qu'on arrive, on renage à Fidji. Puis on a la chance de pouvoir faire aussi un stage de préparation finale avec Tahiti, nos homologues tahitiens et puis les Fidjiens. En général, un nageur va faire entre 4 et 7 épreuves. En cette période au mois de mai, c'est pas évident d'avoir nos nageurs de métropole puisqu'ils sont au lycée ou ils sont en examen, etc. On fait au mieux, c'est que des nageurs qui s'entraînent en Nouvelle-Calédonie. Bah, le premier objectif, c'est de s'améliorer personnellement déjà. Et puis, les petites médailles qu'ils peuvent avoir à droite, à gauche, puisque la médaille d'or, s'il y a un Australien ou un Néo-Zélandais, ça va être très difficile, mais les médailles secondaires et puis les relais, en montrant qu'on est la première nation derrière les Australiens et les Néo-Zélandais, ça montre qu'on prépare bien les Jeux du Pacifique.
Et parmi les 9 nageurs sélectionnés, on retrouve Anaë Delande. À 13 ans, elle est la plus jeune de la délégation calédonienne. La licenciée du CNC a remporté le meeting Total Energy le week-end dernier dans sa catégorie d'âge. Un peu stressée pour ses premiers Océania, elle a surtout hâte d'y être.
Bah oui, j'ai hâte. Une première expérience pour moi avec la Ligue et tous les grands. Donc euphorique aussi, un peu stressée parce que c'est mes premiers Océania. Mais je pense que je suis prête et que je peux faire des belles choses. Normalement, je suis engagée sur le 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres papillon. Et le 200 nage libre, 400 nage libre et 800 nage libre. Et l'eau libre avec le 5 km. Pour l'instant, je suis un peu stressée parce que c'est ma première compétition sur 6 jours. Donc ça va beaucoup s'enchaîner, ça va faire mal aux jambes. Mais on va essayer de gérer au mieux et on verra bien. Ce serait vraiment magnifique de faire un podium. Même déjà d'accéder au final, ce serait vraiment chouette.
Les Océanias de natation, c'est donc du 8 au 13 mai au Fidji, une première étape avant les Jeux du Pacifique en 2027 à Tahiti. Des Jeux auxquels pourrait participer un certain Maxime Grousset.
Justement, les jeunes nageurs calédoniens se sont entraînés ce matin aux côtés de Maxime Grousset, quadruple champion du monde, mais aussi de son coéquipier en équipe de France, Romain Fuchs, avant de quitter le territoire ce soir. Et après un stage de 2 semaines, les deux athlètes avaient leur dernière séance d'entraînement dans les bassins du Wentoro. Un bilan positif pour Maxime Grousset, Romain Fuchs et leur entraîneur Michel. Chrétien.
Tout était très très bien, des très bons entraînements, à la fin un peu dur. C'était génial, j'ai retrouvé la famille, j'ai retrouvé la maison justement, le caillou.
Le stage s'est très bien passé, on a bien pu bosser, on est très content de ce qu'on a fait avec Max là. Donc bonne préparation pour les championnats de France qui arrivent, ça devrait très bien se passer.
Bon, en fait, on a fait un très bon stage, dans de très bonnes conditions, sous le soleil, pas tous les jours mais fort agréable. Avec également une participation au meeting du CNC qui était vraiment un événement incroyable. Une journée de natation totale avec les plus petits, les plus vieux. C'était vraiment un moment fort. Maxime y a brillé dans la mesure où il a battu le record du meeting. Donc vraiment satisfait de ces deux semaines.
Maxime Grousset, Romain Fuchs et Michel Chrétien s'envoleront ce soir pour la métropole. Les nageurs reprendront leurs entraînements dès lundi. Et on termine avec un mot de golf et le troisième et dernier tour ce vendredi de l'Evian New Caledonia Open sur le parcours de Dumbéa. Hier soir, à l'issue du deuxième tour, l'Australien Jay McKenzie avait pris le lead à 5 coups sous le par. Côté calédonien, Nico Tavergeux était en tête, 14e du général à 5 coups sous le par. Le tournoi se termine donc cet après-midi. Il est 12h30 très exactement. C'est la fin d'Infomac. Je vous souhaite évidemment une belle après-midi. Infomac qui se poursuit jusqu'à 13h avec Pierre. À bientôt.